Audible Studio présente La préquelle de la roue du temps, Nouveau printemps, de Robert Jordan. Traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet. Lu par Arnaud Leridan. Chapitre 1. Le crochet. Au cœur de la nuit, un vent froid balayait la plaine couverte de neige où des hommes s'étaient entretués 3 jours durant. Si l'air se révélait piquant, il restait moins mordant que l'âne l'aurait cru à ce moment de l'année. Le climat demeurait cependant assez rigoureux pour qu'il frissonne sous son plastron et sa cape, l'air qu'il expirait se transformant en nuages de buée devant sa bouche, quand les bourrasques ne l'emportaient pas au loin avant cette transmutation. Dans le ciel nocturne, telle une poignée de poussière de diamants jetée au vent, des milliers d'étoiles commençaient à luire sur un fond noir comme de l'encre. Encore très loin de son zénith, la lune gibbeuse fournissait à peine assez de lumière pour découper la silhouette des sentinelles qui veillaient sur le camp dressé dans un bosquet de chênes et de faux bleuets. Afin de ne pas signaler aux aïeuls la position des hommes endormis, pas un seul feu ne brûlait dans le périmètre. Combattant déjà les aïeuls bien avant le début de cette guerre, dans les marches du Chiennard, sa façon à lui d'être loyal à des amis, l'âne avait payé pour savoir que les guerriers voilés de noir étaient un fléau en plein jour. Les affrontés de nuit revenaient à jouer sa vie à pile ou face. Et encore, la côte était peut-être moins bonne que ça. Bien entendu, il arrivait que ces féroces guerriers n'aient pas besoin des feux de camp pour repérer leur cible. Sa main gantelée posée sur le pommeau de l'épée qui battait son flanc, l'âne resserra les pans de sa cape et continua à avancer dans la neige où il s'enfonçait jusqu'au mollet. Tandis qu'il faisait sa ronde parmi les gardes, le contact de son arme le rassurait bizarrement. C'était une très ancienne épée forgée avec le pouvoir de l'unique avant la dislocation du monde, au cours de la guerre des ténèbres, à une époque où le ténébreux, pendant un temps, avait eu une influence directe sur le royaume des vivants. De cet âge depuis longtemps révolu, il ne restait que des légendes et de mystérieuses connaissances que les Aes Sedai, disait-on, gardaient jalousement pour elle. Mais l'arme était bien réelle. Impossible à briser, la lame n'avait jamais besoin d'être aiguisée. Au fil des siècles, la poignée avait dû être remplacée un nombre incalculable de fois. Mais rien n'altérait la lame de ce qui était jadis l'épée des rois du Malkier. Petit et râblé, le garde vêtu d'une longue cape devant lequel se campa l'âne était appuyé contre un arbre, la tête reposant sur la poitrine. Quand son chef lui tapa sur l'épaule, il sursauta, se redressant si vite qu'il faillit lâcher l'arc qu'il serrait entre ses mains gantées. Dans le mouvement, la capuche de sa cape glissa, révélant le casque en fer conique qu'il portait sur la tête. Le soldat se hâtant de remettre en place la capuche, l'âne n'eut pas le temps de voir vraiment son visage derrière la grille de protection du casque. Aucune importance, car il savait de qui il s'agissait. Surmonté d'une crête d'acier, le casque de l'âne était ouvert, à l'image de celui des défunts guerriers du Malkier.
« Je ne dormais pas, seigneur, » se justifia le soldat. « C'était juste un court moment de détente. »
Le domani à la peau cuivrée semblait très embarrassé, et il avait bien raison, car ce n'était pas sa première bataille, loin de là, et probablement même pas sa première guerre.
« Basram, un aïeul t'aurait réveillé en te tranchant la gorge ou en te plantant une lance dans le cœur. »
L'âne prit garde à ne pas élever le ton. Pourvu qu'on reste ferme et déterminé, les soldats, en règle générale, se montraient plus réceptifs à un discours posé qu'à des beuglements furieux.
Il serait peut-être plus facile de résister à la tentation si tu t'éloignais de l'arbre.
D'autant plus que rester trop longtemps immobile au même endroit était un bon moyen d'attraper la mort par un temps pareil. Mais l'âne ne jugea pas utile de le mentionner, parce que Basram le savait tout aussi bien que lui. En Arad d'Oman, les hivers étaient presque aussi rudes que dans les terres frontalières. Après avoir marmonné des excuses, le domani porta une main à son casque pour saluer l'âne, puis il s'écarta de l'arbre. Droit comme un i, désormais, il entreprit de sonder les ténèbres. Pour éviter d'avoir les doigts de pied gelés, il prit la précaution de sautiller sur place. Selon les rumeurs, les Aes Sedai, près du fleuve, mettaient leurs dons de guérison au service des soldats. Quand elles intervenaient, les maladies et les blessures disparaissaient comme si elles n'avaient jamais existé. Sans leur secours, l'amputation était le seul moyen d'enrayer la gangrène qui finissait par s'étendre à toute la jambe. Cela dit, frayer avec les Aes Sedai n'était jamais recommandé. Des années après avoir bénéficié de leur aide, on risquait de découvrir que l'une d'entre elles vous avait transformé en marionnette, grâce à des fils qu'elle pouvait tirer en cas de besoin. Habituées à réfléchir à long terme, ces femmes ne reculaient devant rien pour mener à bien leurs plans compliqués, une des raisons pour lesquelles Lan s'ingéniait à les éviter. Pour en revenir à Basram, combien de temps resterait-il vigilant? Lan n'en savait rien, et de toute façon, pousser le Domani au-delà de ses limites n'aurait eu aucun sens. Tous les hommes étaient épuisés, leur chef en avait conscience. Et il devait en aller de même de tous les soldats de la Grande Coalition, parfois appelée la Grande Alliance, quand on ne l'affublait pas de noms rien moins que flatteurs. Neige ou pas neige, quand ça bardait lors d'une bataille, n'importe quel homme finissait par s'en ressentir. Même pendant les accalmies, les muscles restaient noués à cause de la tension, et ces derniers jours n'avaient pas été prodigues en matière de répit. Le camp regroupait largement plus de 300 hommes, dont un bon quart était en permanence de garde. Face aux aïels, Lan tenait à ne jamais relâcher sa vigilance, mais les meilleurs plans avaient leurs failles. En moins de 200 pas, il dut réveiller trois autres sentinelles. Le premier soldat, Jaim, dormait debout, sans rien pour le soutenir. La tête bien droite et les yeux ouverts, il faisait bel et bien un somme, un truc que certains hommes parvenaient à apprendre, en particulier les vétérans comme Jaim. Sans écouter les protestations du tir au flanc, voyons, dormir debout était impossible, tout le monde savait ça. Lan menaça Jaim de prévenir tous ses vieux camarades, s'il surprenait encore une fois à se la couler douce pendant le service. Le vétéran en resta bouche bée un moment, puis il maugréa.
« Ça ne se reproduira pas, Seigneur. Que la lumière consume mon âme si je mens. »
Une profession de foi parfaitement sincère, sans nul doute. Pas mal d'hommes auraient eu peur que les autres le battent comme plâtre pour les avoir mis en danger. Connaissant les frères d'armes de Jaim, Lan aurait parié que celui-ci redoutait surtout qu'il sache qu'on l'avait pris en flagrant délit de négligence. Continuant son chemin, Lan eut la surprise de s'entendre ricaner. Il riait rarement, et ce sujet n'avait rien de drôle, pour tout dire. Mais prendre les choses avec humour n'était pas si mal, quand on ne pouvait rien y changer. Les hommes étaient fatigués au point de somnoler pendant leur tour de garde, et alors, autant protester contre la mort elle-même. Lorsqu'on était impuissant face à la réalité, le mieux restait de l'accepter. Sans crier gare, Lan s'immobilisa et lança à voix haute.
« Bukama, que fabriques-tu à fureter comme ça? Tu me colles au basque depuis mon réveil. »
Un petit cri de surprise retentit dans le dos de Lan. Bukama avait cru être discret, et pour être franc, bien peu d'hommes auraient entendu la neige crisser sous ses bottes. Mais il aurait dû se douter que Lan était du nombre. Bukama n'était-il pas un de ses maîtres? Ne lui avait-il pas appris dès le début à être conscient de son environnement en permanence, y compris dans son sommeil? Une leçon difficile à assimiler pour un jeune garçon, mais à part les morts, qui pouvait se permettre d'oublier des notions si fondamentales? Dans la flétrissure, au-delà des terres frontalières, les mauvais élèves ne survivaient jamais longtemps.
« Je veillais sur tes arrières, »
dit Bukama en allongeant le pas pour rejoindre Lan.
« Un de ces fichus suppôts des ténèbres voilés de noir aurait pu t'attaquer par derrière et te trancher la gorge. As-tu oublié tout ce que je t'ai enseigné pour te montrer si imprudent ?»
Taillé tout en muscles, Bukama était presque aussi grand que Lan, donc plus grand que la plupart des hommes, et il portait un casque du Malkier sans crête. Il avait pourtant droit à cet honneur, mais il était homme à se soucier davantage de son devoir que de ses prérogatives. Une saine attitude, certes, même si Lan aurait aimé qu'il ait un tout petit peu plus ses propres intérêts à cœur. Alors que le Malkier agonisait, 20 hommes avaient été chargés de conduire en sécurité Lan Mandragoran, encore bébé en ce temps-là. 5 d'entre eux seulement avaient survécu, élevant Lan, puis lui apprenant tout ce qu'il savait. Bukama était le dernier des 5. Ses cheveux gris lui tombant sur les épaules, comme l'exigeait la tradition, il restait un fier guerrier au dos bien droit, aux biceps d'acier et aux yeux bleus vifs brillant d'intensité. Bukama baignait tout entier dans la tradition. Une fine lanière de cuir tressé lui saignait la tête, s'enfonçant dans un des sillons que les ans avaient creusé dans son front. Très peu d'hommes portaient encore le hadori rituel du Malkier. Lan était du nombre, et il ne s'en séparerait pas jusqu'à sa mort. Ensuite, il serait enfoui sous terre en l'arborant, nu comme au jour de sa naissance, ainsi qu'il convenait, s'il restait quelqu'un pour l'inhumer selon les rites. Lan tourna la tête vers le nord, où s'étendait naguère sa patrie. Un étrange foyer, à dire vrai. Et bien des gens se seraient étonnés qu'il y pense en ces termes. Mais depuis qu'il s'était aventuré dans le sud, L'âne avait le mal du pays, et voilà tout.
Je me suis montré assez bon élève pour t'entendre, mon vieil ami.
Même s'il ne parvenait pas à distinguer le visage de son mentor dans l'obscurité, l'âne aurait parié qu'il le foudroyait du regard. Y compris quand il louangeait son disciple, Boukama se débrouillait pour le dévisager ainsi. Cet homme était de l'acier trempé, revêtu de chair pour abuser l'ennemi. Une volonté indestructible et une loyauté sans limite.
Tu es toujours persuadé que les Aïels sont les sbires du ténébreux ?
Boukama fit un signe de protection contre le mal, comme si l'âne venait de prononcer le vrai nom du père des mensonges. Shaitan. Les deux hommes avaient vu quel malheur on pouvait s'attirer en disant ce nom à voix haute. Plus radical que son élève, Boukama avait la certitude qu'il suffisait d'y penser pour attirer l'attention du ténébreux.
Le ténébreux et les rejetés sont emprisonnés dans le mont Shayolgul, récita intérieurement l'âne. Le créateur s'est assuré du sort du père des mensonges au moment même de la création. Fasse le créateur que nous restions en sécurité au sein de la lumière et au creux de sa paume. Pour sa part, l'âne doutait que penser au nom fatidique soit suffisant pour avoir des ennuis. Mais quand il était question des ténèbres, on ne se montrait jamais assez prudent.
« Si ce n'est pas le cas, » répliqua Boukama, « que fichons-nous ici ?»
Une remarque atypique dans la bouche de Boukama. S'il aimait se lamenter, c'était toujours au sujet de choses sans grande importance ou de perspectives d'avenir. Sur le présent, il ne s'épanchait jamais.
« J'ai juré de rester jusqu'à la fin, » rappela simplement l'âne.
Boukama se gratta le nez et eut un grognement qui aurait pu passer pour approbateur, même si ce n'était jamais facile à déterminer avec lui. Parmi d'innombrables leçons, n'avait-il pas appris à l'âne que la parole d'un homme, pour valoir quelque chose, devait l'engager autant qu'un serment prêté au nom de la lumière ? Lorsqu'ils avaient traversé la colonne vertébrale du monde, une immense chaîne de montagnes, les Aïels ressemblaient bel et bien à une horde de suppôts de ténèbres. Commençant par brûler la cité de Keirien, ils avaient ensuite ravagé le pays du même nom, puis semé la terreur et la mort à travers Théar et le royaume d'Andorre. Après 2 ans de folie meurtrière, ils avaient atteint cet ultime champ de bataille, devant les murs de Tarvalon, la mégalopole construite sur une île. Depuis que le monde moderne était né des vestiges de l'empire d'Arthur et de Faucon, les Aïels n'avaient jamais quitté leur désert. En des temps plus lointains, avaient-ils lancé des invasions ? C'était possible, mais nul n'en avait la preuve, à part peut-être les Aes Sedai. Mais comme souvent, dès qu'il était question des résistances de la Tour Blanche, impossible d'obtenir des informations. Très jalouses de leur connaissance, les sorcières de Tarvalon ne les dispensaient qu'au compte-gouttes, lorsque l'envie leur en prenait et au moment qu'elles avaient choisi. À l'extérieur de Tarvalon, cependant, bien des gens affirmaient voir une logique à tout cela. Selon la plupart des historiens, 1 000 000 d'années s'étaient écoulées entre la dislocation du monde et les guerres des Trollocs. Ces dernières avaient provoqué la destruction des nations qui existaient alors. De la vie générale, le ténébreux, emprisonné ou non, avait tiré dans l'ombre les ficelles de ce désastre. Pareillement, il avait orchestré en secret la guerre des ténèbres, la dislocation et la fin de l'âge des légendes. 1 000 ans après les guerres des Trollocs, Arthur el de Faucon avait bâti un empire qui n'avait pas résisté, après sa mort, aux ravages de la guerre des Cent Années. Certains historiens voyaient là encore une intervention du ténébreux. Et aujourd'hui, 1 000 ans environ après la disparition de l'empire d'Arthur, les Aïels venaient semer la mort et la destruction de l'autre côté de la colonne vertébrale du monde. Il devait y avoir une logique dans tout cela. À coup sûr, le ténébreux manipulait les guerriers voilés. S'il ne l'avait pas cru dur comme fer, l'âne ne serait jamais venu dans le sud. À présent, il n'y croyait plus, mais il avait donné sa parole. L'âne remua les orteils dans ses bottes au bord retourné. Même s'il faisait moins froid qu'il l'aurait cru, rester immobile dans la neige n'était pas conseillé, quand on tenait à l'intégrité de ses pieds.
« Continuons la ronde, » dit l'âne. J'ai bien peur d'avoir à réveiller une bonne dizaine d'hommes, et peut-être même le double.
Cela avant de refaire une ronde, afin de tirer du sommeil les sentinelles qui auraient repiqué du nez. Avant que les deux hommes se soient mis en mouvement, un son les alerta. Un bruit de sabots martelant la neige. L'âne posa la main sur la poignée de son épée et d'instinct s'assura que la lame coulissait bien dans son fourreau. Le crissement de l'acier contre le cuir lui indiqua que Boukama avait eu le même réflexe. Pourtant, aucun des deux hommes ne redoutait une attaque. Peu friands d'équitation, les Aïels se résignaient à chevaucher exclusivement quand ils ne pouvaient pas faire autrement. À cette heure, un cavalier solitaire ne pouvait être qu'un messager. Et les messagers, ces derniers temps, apportaient rarement de bonnes nouvelles, surtout en pleine nuit. Le cheval et son cavalier jaillirent de l'obscurité derrière un soldat à pied, qui devait être un des gardes, avoir l'arc de cavalerie accroché à son épaule. plissant les yeux, l'âne vit que le cheval arborait l'encolure arrondie typique des pur sang de Théar. Le cavalier était à l'évidence originaire du même pays. Primo, parce que le vent charriait un parfum de rose qui n'avait qu'une origine possible, la barbe enduite d'huiles essentielles du personnage. À part un soldat de Théar, qui aurait été assez stupide pour se parfumer sur un champ de bataille, comme si les aïeuls avaient été dépourvus d'odorat. Secondo, qui d'autre dans le monde connu, arborait un casque à la crête absurdement haute et au bord si large qu'il plongeait dans l'ombre le visage de son porteur. Une courte plume blanche sur le casque signalait qu'il s'agissait d'un officier. Une occurrence plutôt étrange pour un messager, même s'il ne s'agissait pas d'un très haut gradé. Recroquevillé sur sa selle à haut trousquin, l'homme serrait frileusement les pans de sa cape sur son torse. À l'évidence, il était transi. Sur la côte de Théar, pays méridional s'il en était, il ne tombait jamais plus de 10 flocons de neige à la fois. Avant d'en avoir été témoin, l'âne n'avait jamais cru qu'une telle chose fût possible, même s'il en avait eu connaissance au fil de ses lectures.
« Le voilà, seigneur !»
annonça d'une voix rauque le garde qui servait de guide au cavalier. Nommé Rakim, ce soldat vétéran du Saldaïa parlait ainsi depuis environ un an, l'époque où une flèche à yel lui avait transpercé la gorge. Dès qu'il avait bu un coup de trop, le gaillard adorait exhiber la cicatrice boursouflée qui lui barrait le cou. En homme d'expérience, Rakim s'estimait chanceux d'être encore en vie, et il avait parfaitement raison. Ayant réussi à tromper la mort une fois, il imaginait pouvoir répéter cet exploit à l'infini. Du coup, même à jeun, il se vantait de sa chance, une erreur qu'il finirait par payer au prix fort. Parce que défier le destin n'était jamais avisé.
Seigneur Mandragoran ?
Demanda le cavalier, en immobilisant sa monture devant l'âne et Bukama. Sans mettre pied à terre, il étudia un moment les deux guerriers. Surpris par l'extrême sobriété de leur armure et la qualité médiocre de leur cape, chacune étant aussi élimée que l'autre, il doutait d'être en face d'officiers de haut rang. S'il n'avait rien contre quelques broderies de ci de là, l'âne n'aimait guère le goût immodéré des hommes du sud pour les ornements clinquants. Sous sa cape, le visiteur portait sûrement un plastron doré et une tunique de satin aux couleurs très probablement criantes de sa maison. Ses bottes montantes étaient sans nul doute couvertes de décorations en argent, qui devaient briller comme des lucioles sous les rayons de lune.
« Que la lumière consume mon âme ! Je savais que vous étiez le plus proche, mais je commençais à avoir peur de ne jamais vous trouver. Le seigneur Emarès et 600 de ses hommes se sont lancés à la poursuite d'au moins autant d'Aiel. »
L'homme hocha très légèrement la tête.
« Curieusement, ceux-ci se dirigent vers l'est, loin du fleuve. L'important, c'est que la neige les ralentit exactement comme nous. D'après le seigneur Emarès, si vous mettez en place une enclume sur la ligne de crête appelée le crochet, il pourra jouer le rôle du marteau et écraser nos ennemis. Toujours selon lui, les aïels n'atteindront pas la ligne de crête avant l'aube. »
L'âne eut une moue dubitative. Certains hommes du sud avaient une notion très particulière de la politesse, comme parler sans mettre pied à terre et sans avoir pris la peine de se présenter. Étant le visiteur, le messager aurait dû décliner son identité le premier. À présent, si l'âne le faisait, cela passerait pour de la prétention. Pour ne rien arranger, le type avait omis de transmettre les compliments ou les bonnes pensées de son seigneur. Enfin, il semblait croire que ses interlocuteurs ignoraient que l'Est était à l'opposé du fleuve Erinin. Le déficit de courtoisie militait déjà contre lui, mais ce dernier point était d'une insigne grossièreté. Même si Bukama n'avait pas bronché, l'âne lui posa la main sur le bras droit, comme si de rien n'était. À l'occasion, son mentor pouvait se montrer très chatouilleux. Le crochet se dressait à une bonne lieue du camp, et la nuit était déjà bien avancée. Mais l'âne n'était pas homme à se laisser arrêter par des détails.
« Et au seigneur Emarès que je serai là-bas aux premières lueurs de l'aube. »
Le nom de ce seigneur ne disait rien à l'âne, et ce n'était pas étonnant au sein d'une si grande armée. Près de 200 000 hommes, originaires de plus de 10 nations. Sans compter les gardes de la tour de Tarvalon et même un régiment de Fils de la Lumière. Dans ces conditions, comment retenir les noms de tous les commandants ?
Bukama, réveille les hommes !
Sur un grognement sauvage, Bukama fit signe à Rakim de le suivre. Puis il s'enfonça dans le camp en criant.
« Debout et en selle ! Nous nous mettons tous en mouvement ! Déplacez-vous vite !»
lança le messager anonyme sur un ton qui se serait volontiers voulu plein d'autorité.
« S'il charge ses aïeuls sans qu'une enclume soit en place, le seigneur Emarès en concevra d'amers regrets. »
Des regrets, semblait-il sous-entendre, que le seigneur Mandragoran ne tarderait pas à partager. L'âne se représenta mentalement une flamme et y projeta toutes ses émotions. Pas seulement la colère, mais tout ce qu'il éprouvait, jusqu'au plus infime fragment, afin d'avoir l'impression qu'il flottait dans le vide. Après des années d'entraînement, atteindre le Kodi, l'unicité, prenait moins d'une seconde.
Alors que ses pensées et son corps parurent s'éloigner de lui, l'âne eut l'impression de ne plus faire qu'un avec le sol sous ses pieds, avec la nuit qui l'entourait, et l'épée qui ne lèverait pas sur ce fichu malotru. « J'ai dit que j'y serais, et je tiens toujours parole. » Désormais, il n'avait plus aucune envie de connaître le nom du messager. S'inclinant distraitement sur sa selle, l'homme fit faire demi-tour à son cheval et le lança au trot. L'âne maintint le codi quelques instants de plus, afin de s'assurer qu'il ne lâcherait pas la bonde à ses émotions. S'engager dans une bataille en étant furieux était la pire erreur imaginable. La colère rendait aveugle, ou au moins limitait le champ de vision, et elle poussait à faire les mauvais choix. Cela dit, comment cet abruti avait-il réussi à vivre si longtemps? Dans les terres frontalières, il aurait dû se battre en duel 10 fois par jour. Lorsqu'il fut parfaitement calme, presque comme s'il était toujours immergé dans l'unicité, l'âne se remit en mouvement. Évoquer le visage plongé dans les ombres du messager ne lui faisait plus bouillir les sangs, une très bonne chose. Quand il atteignit le milieu du camp, il songea qu'un profane aurait pensé à une fourmilière récemment victime d'un coup de pied. Pour un expert, il s'agissait d'une activité certes fébrile, mais très organisée et quasiment silencieuse. Pas de mouvement inutile. Une économie parfaite d'énergie. Les chevaux de bas étant un fardeau lorsqu'on devait se battre, il n'y avait pas de tente à démonter. Du coup, pas mal d'hommes étaient déjà en selle, équipés de pétanques et brandissant leurs lances au très long fer à serrer. Les autres finissaient de sceller leurs montures ou d'accrocher à leur selle un carquois plein de flèches et un arc court glissé dans un étui en cuir. Les soldats trop lents ou trop maladroits étaient tous tombés durant la première année de guerre. Les survivants étaient pour la plupart des Candoriens, des Saldaïaniens et des Domani. Des Malkyri étaient venus dans le sud, mais l'âne refusait de les commander, même si loin de chez lui. Si Bukama chevauchait à ses côtés, il ne le suivait pas. Une nuance capitale. Le vétéran approchait. Une lance au poing, il guidait par la bride son ongre rouant nommé Lance du Soleil. Un jeune homme encore imberbe, Cagnédrine, le suivait en tirant par la longe l'étalon baie de l'âne. Même si félin dansant n'était qu'à moitié formé, Cagnédrine avait bien raison de se montrer circonspect avec lui. Un destrier en devenir restait une arme redoutable, et Cagnédrine le savait, car son visage juvénile était trompeur. Originaire du camp d'or, ce soldat expérimenté et archer d'une rare habileté était un tueur débonnaire qui combattait bien souvent avec un sourire sur les lèvres. À l'idée d'en découdre bientôt, il semblait absolument ravi. Tout aussi impatient, Félin dansant secouait fièrement la tête. Bien qu'il eût toute confiance en Cagnédrine, l'âne vérifia les sangles de selle de son étalon avant de s'emparer des rênes. Un défaut de fixation au combat pouvait tuer aussi sûrement qu'une lance ennemie.
« J'ai dit aux hommes ce que nous allions faire ce matin, » marmonna Bukama lorsque Cagnédrine fut parti rejoindre sa propre monture. « Contre ces maudits aïels, une enclume peut se transformer en pelote à épingle si le marteau tarde à frapper. »
Porté à râler d'abondance, Bukama s'en abstenait devant les hommes, réservant l'exclusivité de sa morosité à l'âne.
« Certes, mais si l'enclume n'est pas en place quand il frappe, c'est le marteau qui devient une pelote à épingle. »
Alors qu'il montait en selle, l'âne s'avisa que le ciel tournait déjà au gris. À l'anthracite, plutôt, mais on ne distinguait déjà plus toutes les étoiles.
« Pour atteindre le crochet avant l'aube, il faudra chevaucher dur. »
Il haussa le ton.
« En selle, tout le monde !»
Alternant le galop et le trot, les cavaliers ne se ménagèrent effectivement pas. De temps en temps, mettant pied à terre, ils avançaient au pas de course, leur cheval tenu par la bride afin qu'il se repose un peu. Dans les récits des trouvères, les soldats galopaient 4 ou 5 lieues du rang, sans marquer une pause. Dans la réalité, même sans l'obstacle supplémentaire constitué par la neige, une cavalcade d'une lieue aurait estropié une moitié des chevaux et épuisé l'autre, bien longtemps avant que le crochet soit en vue. Alors que la nuit agonisait, la colonne avançait en silence, le bruit des sabots et des bottes lors des marches forcées très opportunément étouffées par l'épaisse couche de neige. Habitués à ce genre d'exercice, les soldats ne gaspillaient pas leur souffle à se plaindre ni à parler. Concentrés sur ce qu'ils faisaient, les hommes et les chevaux avalaient la distance à un rythme impressionnant. Autour de Tarvalon, le terrain était pour l'essentiel constitué de vastes plaines semées çà et là de bosquets en général assez petits, mais presque toujours très denses. Quelle que soit leur taille, l'âne prenait garde de ne jamais passer trop près de ses cachettes idéales. Instruit par l'expérience, il ne les quittait pas des yeux, avant d'être hors de portée de lance ou de flèche. Très opportuniste, dès qu'il était question d'embuscade, les aïels parvenaient à se cacher dans un endroit où un chien n'aurait pas trouvé refuge. Pour l'heure, cependant, rien ne bougeait, comme si la colonne de l'âne avait été seule au monde. Le ululement d'un hibou vint opportunément rappeler à l'officier qu'il n'en était rien en réalité. Lorsque le crochet fut enfin en vue, le ciel tournait déjà au gris clair à l'est. La ligne de crête, relativement basse, 40 pieds de hauteur au maximum, s'étendait sur près d'un quart de lieue. Même si elle n'était pas bien haute, dominer l'adversaire était toujours un avantage stratégique majeur. Quant à ce nom, le crochet, il avait pour origine la façon dont l'extrémité nord décrivait une boucle orientée vers la pointe sud de la muraille rocheuse. Une configuration qui sauta aux yeux de l'âne, tandis que ses hommes se déployaient au sommet de la crête sur ses flancs. L'aube arrivait. À l'ouest, l'âne distinguait la forme massive de la tour blanche, l'édifice qui se dressait au cœur de Tarvalon, à quelques 3 lieues de distance. La tour était le plus haut bâtiment du monde. Elle semblait pourtant écrasée par la montagne solitaire qui trônait au milieu de la plaine, de l'autre côté du fleuve. Même en pleine nuit, c'était évident, car le pic du dragon occultait les étoiles. Au cœur de la colonne vertébrale du monde, ce mont aurait déjà été un géant. Là où il se trouvait, tutoyant le ciel au point de transpercer les nuages, il était tout simplement monstrueux. Très haut au-dessus des nuages, son sommet tronqué crachait en permanence une colonne de fumée. Symbole d'espoir et de désespérance, le pic du dragon était l'incarnation d'une prophétie que personne au monde ne voulait voir se réaliser un jour. Pourtant, cela se produirait inévitablement. Apercevant le pic, Bukama dessina de nouveau un signe de protection contre le mal. À partir de la ligne de crête, un terrain vallonné se déroulait sur près d'un quart de lieue en direction de l'ouest, jusqu'à un bosquet presque assez grand pour mériter le nom de forêt. Sur le terrain découvert, 3 bandes de neige piétinée signalaient le passage de chevaux ou de fantassins. Sans approcher, il était impossible de dire qui avait laissé ces traces. Des aïels ou des membres de la prétendue coalition, seule la lumière le savait. En revanche, une certitude demeurait. Ces empreintes ne dataient pas de plus de 2 jours, le moment où la neige avait cessé de tomber. Il n'y avait pas l'ombre d'un aïel en vue. Même s'il n'avait pas changé de direction, une possibilité qu'il convenait de ne pas négliger, les guerriers voilés débouleraient d'un instant à l'autre du bosquet. Sans attendre l'ordre de leur chef, les soldats enfoncèrent leurs lances dans la neige, se la laissant ainsi à portée de la main. Puis ils sortirent leur arc court de son étui de cuir, y encochèrent une flèche, mais ne tirèrent pas sur la corde. À part quelques bleus condamnés à ne pas faire de vieux os, aucun archer ne se croyait capable de tenir son arc armé pendant une longue période. Dans les rangs, seul l'âne n'avait pas d'arc. Chargé de diriger les opérations, il n'était pas censé se déconcentrer en sélectionnant des cibles. Même si beaucoup d'hommes du sud ne le tenaient pas en très haute considération, l'arc demeurait l'arme la plus efficace contre les aïels. Lorsqu'il se montrerait, Emarès et ses guerriers de Théar chargeraient en brandissant des lances et des épées. En certaines occasions, c'était la seule solution. Mais perdre des hommes inutilement était la pire erreur qu'un commandant pouvait commettre. Et quand on se battait au corps à corps contre les aïels, pas question d'épargner ces hommes. C'était couru d'avance, aussi sûrement que les noyaux de pêche contenaient du poison. L'âne ne redoutait pas que les aïels tournent les talons en apercevant les cavaliers sur la ligne de crête. En dépit de racontars stupides, les guerriers voilés n'avaient rien de fou furieux, et ils savaient refuser le combat quand les statistiques étaient contre eux. Mais à 600 contre moins de 400, ils n'hésiteraient pas une seconde, même si l'ennemi avait l'avantage de la position. Alors qu'ils se rueraient à l'attaque, une pluie de flèches s'abattrait sur eux. Si l'archer était doué, un arc de cavalerie pouvait tuer à 300 pas, et il infligeait de graves blessures à 400. Une zone dangereuse sacrément étendue lorsque les aïels tentaient de la traverser. Hélas, ils avaient eux aussi des arcs, et ceux-ci étaient aussi efficaces que ceux des cavaliers. Si l'ennemi optait pour un affrontement statique, décidant d'échanger des volées de flèches avec les défenseurs de la crête, les pertes seraient lourdes des 2 côtés, même si Emarès arrivait très vite. En revanche, les choses se passeraient mieux si les aïels avançaient. En courant, un archer perdait beaucoup de sa précision. Dans ce cas de figure, il faudrait qu'Emarès ne soit pas en retard. Sinon, en particulier s'il savait qu'on les suivait, les aïels tenteraient de passer par les flancs, et ça risquait de faire exploser la ligne de défense. Quoi qu'il arrive, dès que les renforts prendraient l'ennemi à revers, l'âne ordonnerait à ses hommes de récupérer leurs lances et de charger. C'était l'idée générale de la manœuvre nommée le marteau et l'enclume. Une force pour fixer l'adversaire, une autre pour le frapper par derrière, puis une charge conjointe refermant la mâchoire du piège. Rien de bien compliqué, mais une tactique des plus efficaces. Comme souvent, plus on faisait simple et mieux ça fonctionnait. Ces têtes de mules de Kyrieniens avaient fini par comprendre, adoptant la manœuvre. Encore plus têtu, une multitude d'altariens et de mourandiens étaient morts faute de l'avoir ajouté à leur répertoire. À l'est, l'aube pointait. D'ici peu, le soleil se montrerait à l'horizon, dans le dos des cavaliers. Alors que les bourrasques faisaient gonfler sa cape, l'âne invoqua de nouveau le Kodi, et il parvint à ignorer totalement le froid. Autour de lui, il entendait Bukama et les autres respirer. Tout au long de la ligne, les chevaux raclaient impatiemment le sol. Au-dessus de la plaine, à la lisière du bosquet géant, un faucon chassait. Il changea soudain de direction et s'éloigna à tire-d'aile. Jaillissant des arbres, la colonne d'Aiel apparut. Par rang de 20 hommes, les guerriers voilés couraient dans la neige, comme si elle ne les gênait pas le moins du monde. L'âne sortit sa longue vue de l'étui de cuir accroché à sa selle. Fabriqué au Caïrienne, c'était un instrument de très bonne qualité, et il eut l'impression, en portant l'embout à ses yeux, que les Aiel venaient de franchir un quart de lieue en une fraction de seconde. Tous très grands, au minimum de sa taille et bien souvent plus imposants, les guerriers voilés portaient des vêtements gris et ocre, qui se distinguaient particulièrement bien sur la neige. S'il devait y avoir des femmes parmi eux, puisque celles-ci se battaient parfois aux côtés des hommes, le voile empêchait de les identifier. Mâles ou femelles, tous ces guerriers serraient dans une main une courte lance et une rondage de cuir. Dans l'autre, ils tenaient un faisceau de lance tout aussi meurtrière. Pour l'instant, leur arc reposait dans leur dos. Avec ces armes, les Aiel faisaient des ravages. L'âne était bien placé pour le savoir. Pour ne pas voir les cavaliers sur la crête, il aurait fallu que les guerriers voilés soient aveugles. Pourtant, ils continuaient d'avancer, la colonne émergeant des arbres à la manière d'un long serpent menaçant. À l'ouest, dans le lointain, une sonnerie de cor retentit. Une autre lui répondit. Mais pour qu'elle soit si faible, il fallait qu'elle monte d'un endroit proche du fleuve, et peut-être même de sa berge opposée. Les Aiel chargeaient toujours. Une troisième sonnerie de cor, puis une quatrième et une cinquième, les incitèrent à regarder derrière eux. Parce que le son les intriguait, ou parce qu'ils savaient qu'Emarès les suivait. La colonne continuait à grossir. Quelqu'un avait du mal compté, semblait-il. À moins que des renforts aient rejoint le premier groupe. Plus d'un millier d'hommes étaient sortis du bosquet, et il en arrivait toujours. On serait bientôt à 1500 têtes, et le flot ne se tarissait pas. Impassible, l'âne remit la longue vue dans son étui.
« Accueillir la mort !»
souffla Bukama d'une voix qui ne tremblait pas. Dans les rangs, d'autres combattants originaires des terres frontalières répétèrent ces mots. L'âne se contenta de les penser. Au bout du compte, tout homme devait un jour ou l'autre accueillir la mort, et elle arrivait rarement à l'endroit ou au moment qu'il prévoyait. Bien entendu, quelques vénards mouraient dans leur lit, mais depuis l'enfance, l'âne Mandragoran savait que ce ne serait pas son cas. Toujours très calme, il inspecta ses hommes sur ses deux flancs. Comme de juste, les Saldaïaniens et les Candoriens affichaient une détermination d'acier. Mais à sa grande surprise, pas un seul Domani ne semblait nerveux ou angoissé. Aucun ne jetait discrètement des regards derrière lui en quête d'un moyen de battre en retraite. Après avoir combattu 2 ans à leur côté, l'âne n'en attendait pas moins d'eux, pour être franc. Mais d'instinct, il se fiait davantage aux hommes des terres frontalières. Des guerriers conscients depuis la naissance qu'il fallait parfois prendre des décisions déchirantes. Les derniers Aiel venaient de sortir du bosquet. 2000 hommes, un nombre qui changeait tout et ne modifiait rien. À 2000, les Aiel auraient tout loisir de submerger les cavaliers de l'âne, puis d'écraser les hommes d'Emarès, sauf si ces derniers avaient pour eux la chance du ténébreux en personne. L'idée de battre en retraite ne traversa jamais l'esprit de l'âne. Si Emarès frappait alors que l'enclume lui faisait défaut, ce serait une boucherie. En revanche, si l'enclume tenait jusqu'à l'intervention du marteau, les deux composantes du piège auraient une petite chance de se désengager du combat. De toute façon, l'âne avait donné sa parole. Cela posé, il n'avait aucune intention de mourir pour rien sur cette crête, et encore moins de sacrifier en vain ses hommes. Si Emarès ne s'était toujours pas montré lorsque les Aiel seraient à 200 pas de la ligne de crête, il ordonnerait à ses cavaliers de quitter la position, puis de tenter une manœuvre tournante pour rejoindre les forces de Théar. L'âne dégaina son épée et laissa tomber son bras le long de son flanc. Désormais, ce n'était plus qu'une arme sans rien qui puisse attirer le regard ni inciter à lui accorder une attention particulière. Jusqu'à la fin, ce ne serait plus que cela, une arme semblable à toutes les autres. Mais elle contenait à la fois son passé et son avenir. À l'ouest, les cors sonnaient presque continuellement. Un des Aiel du premier rang leva soudain sa lance au-dessus de sa tête. La gardant ainsi sur 3 foulées, il la baissa soudain, et la colonne entière s'arrêta à quelques 500 pas de la ligne de crête. Au nom de la lumière, que se passait-il? La ligne arrière de la colonne se retourna pour sonder l'endroit d'où elle venait. Les aguets se montraient-ils tout simplement prudents? Dans tous les cas, mieux valait postuler qu'ils savaient au sujet des marès. Reprenant sa longue vue, mais cette fois de la main gauche, l'âne étudia les guerriers voilés. Au premier rang, s'abritant les yeux de leurs bras armés, les aïels tentaient de mieux distinguer les cavaliers qui les attendaient. Un comportement incompréhensible. Au mieux, ils pouvaient apercevoir des silhouettes dans l'éclat du soleil levant. À la rigueur, une crête de casque. Mais ce n'était même pas sûr. Pourtant, ils parlaient entre eux, comme si quelque chose les décontenançait. Puis l'un d'eux leva sa lance et d'autres l'imitèrent. L'âne baissa lentement sa longue vue. Tous les guerriers regardaient de nouveau la crête, et tous levaient leurs lances. Un spectacle que l'âne n'avait jamais contemplé et qui ne correspondait à rien qu'il ait connu. Puis tous les aïels baissèrent le bras et crièrent un mot unique, qui couvrit les lointaines sonneries de cor.
« Analein !»
L'âne et Bukama échangèrent un regard interloqué. C'était de l'ancienne langue, un idiome qui remontait à l'âge des légendes et au siècle antérieur aux guerres des Trollocs. La traduction la plus fidèle était sans doute « un seul homme ». Mais qu'est-ce que ça signifiait? Pourquoi les aïels criaient-ils une chose pareille?
« Ils se remettent en mouvement », annonça Bukama.
C'était exact, mais pas en direction de la ligne de crête. Se tournant vers le nord, la colonne repartit au pas de course. Une fois l'extrémité du crochet dépassée, les premiers rangs obliquèrent de nouveau vers l'est. Une série de comportements absurdes. Il ne pouvait pas s'agir d'une attaque de flanc. Pas d'un seul côté, voyons.
Ils retournent peut-être dans leur désert,
fit Kanyedrin, visiblement déçu. D'autres voix le contredirent vivement. Les aïels n'étaient pas du genre à abandonner un champ de bataille. Pour s'en débarrasser, il fallait les tuer jusqu'au dernier.
On les poursuit?
Demanda Bukama. Après un moment de réflexion, l'âne secoua la tête.
Non. Nous allons trouver le seigneur Emarès afin de discuter poliment d'enclumes et de marteaux.
L'âne entendait également en apprendre plus sur ses sonneries de cor. Décidément, la journée commençait d'une manière très étrange. Et si son intuition ne le trompait pas, la suite promettait d'être au moins aussi bizarre.